Vous écoutez
RMC.
J'ai giflé de mots là, c'est incroyable.
On l'a vu en seconde mi-temps quand Nantes a un petit peu accéléré sur le champignon.
Faut quand même rendre à César les travails le gros travail qui a été mis en place.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Jonathan McCarthy, Simon Dutin, Walida Cherchour avec vous ce soir en direct sur la chaîne TikTok d'RMC Sport, la chaîne Twitch également. Sacha est de retour. Pourquoi tu souris, Jonathan? C'est toi qui t'es marié. Le petit jingle là.
Petit massage pendant la pub, c'était très agréable.
Voilà, les gens le voyaient d'ailleurs sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. Bien entendu. On va repasser à la Ligue 1, parce que la Ligue 1 est de retour à partir de vendredi. Je vous rappelle qu'à 21h30, Michel Derzakarian, l'entraîneur de Montpellier, adversaire de Marseille d'ailleurs vendredi, ce sera vendredi soir sur RMC, sera notre invité dans Génération After. C'est
l'équipe en forme en Ligue 1.
Bah, 5 victoires et un nul.
Incroyable.
Hein,
ouais,
personne ne fait mieux sur.
On va le guigner.
Hein,
on va le guigner.
Tu guignes pas cette
vie. Si ça se trouve, il nous écoute, il va pas vouloir venir, Michel.
Ah ben, c'est la tradition. Hein.
Avant ça, on va parler de Marseille, justement, l'adversaire de Montpellier ce week-end. Alors, info de la Provence, Dimitri Payet, genre de 35 ans dont le contrat s'achève en 2024, souhaiterait aller jusqu'à la fin de son contrat. Alors, juste quand même pour vous resituer, cette saison, Payet, c'est 10 titularisations seulement avec l'OM, en 22 apparitions. Et alors, juste pour vous replonger également dans le contexte de sa prolongation, c'était en juin 2020. À l'époque, Jacques-Henri Roux, qui était le président de l'OM, révèle que Payet est venu vers lui indiquant qu'il souhaitait, je cite, être Marseillais à vie et qu'il a accepté une baisse de salaire de 30% sur la première saison et de 40 et 60% sur les deux années de plus. Mais à l'époque, Jacques-Henri Roux, il dévoile autre chose. On vous a retrouvé cette petite archive.
Un grand plaisir que Dimitri va prolonger deux années avec l'Olympique de Marseille, avec nous jusqu'en 2024 et au-delà, s'inscrire dans un projet de reconversion individualisé qui, je l'espère fort, l'amènera à devenir un des cadres majeurs sportifs de l'Olympique de Marseille.
Voilà, Marseille va donc devoir peut-être assumer les promesses de Jacques-Henri Roux. Avis tranché de Jonathan McCarthy.
C'est neutre, il n'y a rien, tu sais même pas quel est leur type de jeu. Si t'as envie d'être défensif, d'avoir une équipe de petites garces qui met des pains, assume et fais-le à fond.
Ça faisait longtemps celui-là.
Très bien choisi.
Ça
c'est pourquoi
ça. Non.
J'ai fini mon article pour la prochaine revue de l'After, qui est une ode
ça
aux
fait
cartes du
le
foot. Ouais, voilà, mais c'était raccord.
Alors vas-y, toi tu dis, l'OM doit assumer finalement ses engagements vis-à-vis de Payet. Est-ce qu'il doit, je vais te poser la question, ça va être dans ton avis tranché, mais assumer également les promesses faites par Jacques-Henri Roux.
Au passage, la voix de Jacques-Henri Roux, ça
nous avait manqué.
Ça faisait très très longtemps.
Moi personnellement, j'avais faim là, ça m'a coupé l'appétit. Donc tout ça pour dire que on en dit tous
le
des saucisses. Mais ce qui est magnifique dans ces saucisses, c'est que il y a les réseaux sociaux, il y a les replays, et moi j'avais fait un avis tranché après la Coupe du Monde en disant la seconde partie de saison sera celle de Dimitri Payet. J'y croyais dur comme fer. Je pensais vraiment qu'après ces 6 mois d'adaptation au style Tudor, il allait revenir. Mais force est de constater que physiquement, ça risque d'être très compliqué. Je me suis trompé. Je suis le premier malheureux, pas juste pour le plaisir d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est simplement que Dimitri Payet a été un joueur délicieux par moment à observer et à admirer à l'Olympique de Marseille. Et je pense que son avenir sportif, du moins à l'OM, est totalement terminé. Il est bouché. Malheureusement, je pense que c'est important en termes de symbole et de signal envoyé au reste des joueurs et à ce qui se passe sur le marché des transferts, que l'Olympique de Marseille respecte son engagement avec Payet. Il y a eu quand même pas mal de cas qui ont été gérés de manière un petit peu brutale de la part de Longoria. Des joueurs qui étaient indésirables, qu'on a un peu envoyés à droite à gauche sans trop prendre en compte ce qui s'était passé et les engagements qui avaient été promis.
Ou mis au
placard. Notamment à Cédric Bakambu, je pense notamment à la gestion du cas Bamba Dieng. Et je pense que Longoria, malgré tout ce qui se fait de bien, il est en train de se faire une petite réputation auprès des agents et des joueurs, comme quoi il a une gestion qui est brutale et qu'un contrat n'est pas forcément la garantie d'aller jusqu'au bout. Malheureusement, un contrat est un contrat. Les clowns qui étaient à la direction précédente de l'OM ont fait des choses qui, continuent de peser dans la balance et ces gens-là ont pris cet engagement auprès de Dimitri Payet. Et je pense qu'il est important que Longoria, parce que c'est Dimitri Payet, parce qu'il a le poids de l'OM, parce qu'il a ce côté symbole, parce qu'il a cette portée médiatique, c'est important que Longoria ne fasse pas cette chose-là d'avoir ce comportement brutal et de dire qu'un contrat, il peut être cassé à tout moment, parce que c'est un très mauvais signal envoyé. Donc pour résumer, autant sur le plan sportif, j'ai eu tort et je pense que c'est fini pour Payet à l'OM, mais sur le plan de la gestion et ce qui est bêtement et simplement de la ressource humaine, c'est important que Longoria respecte ce contrat pour ne pas
envoyer le signal. Y compris le projet de reconversion qu'évoque Jacques-Henri Roux.
Et je pense que Dimitri Dimitri Payet aura un rôle à jouer. Il a, du moins, quand je l'entends parler sur les 3-4 dernières saisons, il y a eu beaucoup de changements. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui comprend le foot. S'il fait ses preuves, je pense qu'il peut avoir un rôle dans l'organigramme de l'OM.
Tu le vois dans l'organigramme de l'OM, toi?
Petit à petit, oui. Ouais. Petit à petit, pas
toi, visiblement.
Petit à petit.
Non, je sais pas, j'ai du mal à imaginer Payet hors
il
foot.
Il aime le foot. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'il aime le foot.
Il est passionné,
quand
oui.
Le foot, quand
oui.
Il a des analyses. Il a toujours des analyses de matchs qui sont hyper intéressantes, lucides.
Mais tout de suite, comme ça? Je pense qu'il faudra quand même qu'il digère un peu sa carrière.
Je pense qu'il a la fibre.
D'accord.
Vas-y Simon, t'en penses quoi toi? Qu'est-ce que l'OM doit faire avec Dimitri Payet?
Il est malade, il nous écoute plus le pot.
Non, moi j'ai déjà fait assommer après avoir dit ce que je vais répéter à nouveau. Pour moi c'est toute proportion gardée, vous emballez pas les mecs. C'est le Francesco Totti de l'Olympique de Marseille. Je le disais en début de saison quand je trouvais que Tudor y était allé un peu fort dans son traitement, la façon de le mettre sur le banc, la façon de t'expliquer qu'il convenait pas à son mode de jeu. Donc je pense qu'effectivement, même si c'est pas tout à fait basé sur les mêmes arguments que Joe, quant à, je sais pas, des totems comme ça, des statues comme ça dans ton effectif, dans ton histoire récente, je pense que tu ne peux que t'enorgueillir de les traiter décemment, et effectivement, d'autant plus que tu avais réussi à négocier avec lui raisonnablement un salaire dégressif, sur la fin de sa carrière. Donc effectivement, si tout le monde s'y retrouve et qu'effectivement lui il continue, parce que c'est quand même une immense surprise, je sais pas ce que vous en pensez, la façon dont il a accepté le rôle minuscule que Tudor lui a conféré cette saison.
Question, c'est, est-ce que ça va continuer s'il continue de faire banquette la saison prochaine?
Moi je pense que s'il l'a accepté pour toute cette saison et qu'il a pas mis le bazar dans le vestiaire, je vois pas pourquoi il l'accepterait pas la saison prochaine.
Il est bien plus mature que le PSG pour aller à Paris.
Il m'a fait manger mon chapeau. Moi je pensais vraiment qu'il y aurait un problème Payet dans le vestiaire cette saison.
Après il y a eu des matchs sur lesquels on aurait pu s'attendre à le voir où il y a pas eu trop de turnover. Il aime pas trop le turnover.
Mais moi je pense que Tudor aurait pu l'utiliser un tout petit peu plus.
À chaque fois qu'il l'a utilisé, même lui il le reconnaît, il n'a pas été.
Bien sûr,
il n'a pas été bon.
T'es évidemment pas là pour faire des cadeaux, les résultats plaisent pour lui, mais effectivement je suis sur la même ligne. Moi je pense que si ça peut bien se terminer avec Payet, après de là je sais pas, lui trouver une place dans l'organigramme, de toute façon c'est quoi, soit t'es au recrutement, soit t'es entraîneur des attaquants,
le pied à l'étrier.
Je vois pas Payet faire scout juste après sa carrière, après une carrière de aussi longue, sincèrement j'ai du mal quand même à le voir.
Pourquoi? C'est quoi? Toi, tu penses qu'il va avoir besoin d'une période de respiration, c'est ça?
Et puis ces mecs-là, ils ont un standing, ils ont un mode de vie.
Ils sont aussi.
Scout, c'est du travail. C'est pas anodin.
Scout,
comme,
c'était pas le bon.
Oui,
le bon
enfin choix, oui, voilà, oui, je sais pas.
Mais c'est pour
ça que je posais ambassadeur, ça veut tout et rien dire.
C'est pour ça que je posais la question à Jonathan, parce que moi déjà j'ai du mal à me faire un avis sur la vie tranchée de Jonathan, parce que je trouve que c'est un cas très complexe par rapport à ce que représente Dimitri Payet sur les dernières années à l'Olympique de Marseille, par rapport à son salaire, par rapport aussi à son aura dans le groupe et autour du club, et le voir une deuxième saison sur un banc comme l'Olympique de Marseille, je sais pas si
Comment il le vivra, tu veux dire?
Non, je pense qu'il de toute façon il vit déjà cette situation, mais une de plus.
Bah oui, c'est ça.
Voilà, la lassitude, même pour lui, de retourner au boulot entre guillemets tous les. Je veux bien qu'il soit passionné, mais retourner à l'entraînement en sachant que le train est aujourd'hui avance sans lui et que cette équipe-là est meilleure même des fois sans lui. Ça aussi c'est quelque chose qui.
Tu peux enlever le des fois et dire majoritairement.
Voilà, majoritairement. Donc Dimitri Payet, même s'il a mis son ego de côté sur une saison, est-ce que peut-être de son côté il se dira pas moi les gars moi j'arrête j'arrête
à la
fin de saison.
Prendre en considération dans l'équation. Pourquoi il est revenu à Marseille déjà.
Juste pour terminer, Jonathan.
Il est revenu à Marseille.
Oui, pour sa femme.
Voilà.
Oui, mais juste pour terminer là-dessus, c'est que je pense que si l'Olympique de Marseille avait gagné une Coupe de France, je pense que Dimitri Payet aurait arrêté cette saison. Je pense qu'il aurait, sur cette image-là. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas véritablement d'avis sur comment ça va se terminer, comment doit se comporter le club, comment doit se comporter Dimitri Payet. Il y en a qui te diront, il peut pas annuler, en tout cas, enlever cette année de contrat parce que ça reste de l'argent, mais en même temps, voilà, franchement,
les infos, c'est qu'il veut honorer son contrat jusqu'au bout.
Oui.
Mais moi, là, je
mais dans l'anonymat complet comme ça. Là.
J'ajoute deux choses. La première, c'est que
vas-y, après on accueille Pablo.
Quand on regarde, tu sais, toutes les petites vidéos que le club fait sur la vie du groupe, sur les inside, il est quand même hyper important. Hum? Hyper important. Ça reste un des capitaines du vestiaire.
D'accord.
Il a un impact hyper positif sur les autres, même quand il joue pas. Je trouve que moi, je suis pas surpris qu'il accepte cette situation. Bah, je pense qu'il a beaucoup, il a beaucoup gagné en maturité, mais il est vraiment exemplaire. Et la deuxième des choses sur Payet, permettez-moi toujours de penser, d'avoir le petit espoir que sur la dizaine de matchs qui restent, avec la blessure d'Unai, avec Under qui a alterné le chaud et le froid, avec la situation de Guendouzi, permettez-moi d'espérer qu'on est encore.
Ouais, allez, mais là le train, il est.
Peut-être Walid, je vais pas être trop exigeant, mais deux, trois petits coups de baguette magique. Ouais, tu vois, admettons, même s'il fait des bouts de match et s'il y a un match, je sais pas moi, à la 38e journée, où il faut absolument gagner pour garder la seconde place face à Monaco ou à Lens, et qui rank et qui met un coup franc, moi je crois encore
sur c'est évidemment ça, on parle de Dimitri Payet quand même. C'est pas à l'abri qu'il te fasse gagner un match comme tu dis.
Vas-y, il faut connaître Pablo derrière.
Sur la fin de saison complètement, mais là on parle aussi pour l'an prochain, parce que les petits coups de baguette pour le salaire qu'il prend à l'année, ça fait cher la boulangerie.
Héron nous avait vendu l'idée qu'il avait baissé son salaire alors que simplement son salaire a été lissé sur plusieurs années, d'où la prolongation de contrat. Mais
alors là, qui est Pablo, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Pablo.
Salut tout le monde. Salut Pablo. Joe.
Rolando Magic,
ça me dérange.
Et alors Pablo, il a aussi un avis très tranché sur la question.
Ouais, moi c'est bien une des premières fois où je vais pas être d'accord avec Joe. Parce que
tu vois comme quoi on peut mûrir dans la vie aussi.
On a un mec qui est tout le temps d'accord avec Joe. Ouais, sinon,
on est très souvent d'accord sur l'OM en tous les cas. Après, sur le football en général, on peut avoir des divergences, mais sur la manière dont on voit notre club, on est assez d'accord.
Moi, je suis d'accord avec la diète de Joe. Souvent, on est unanime là-dessus.
Vas-y, Pablo, sur Payet alors.
Alors, et sur Payet, en fait, moi, je pense que il a justement mûri cette année, vous l'avez dit, il a grandi dans sa réflexion, et justement, je pense que sa réflexion devrait l'amener à se dire, je crois que ça y est, je suis au bout et que je devrais arrêter. Il y a un poste qui l'attend au sein du club, et moi, je pense que c'est pas ce cas, ou c'est pas avec les jeunes qu'il devrait être. C'est sur le banc, dans le staff de Tudor, à être une espèce de capitaine, une espèce de lien entre le staff, l'entraîneur et les joueurs, parce que comme l'a dit Joe, c'est quand même un mec qui a un impact super positif sur l'équipe quand il joue pas. Et en fait, ce serait bête de se priver de ça avec un salaire quand même qui serait beaucoup, 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 enfin très inférieur à ce qu'il a maintenant. Et en fait, il aurait toujours cette aura auprès des joueurs parce que c'est Payet, que sur les années qu'il a passées à l'OM, il a régalé, il a eu des moments moins bien, mais il y a eu beaucoup de moments où il a fait rêver quand même beaucoup de monde. Et je pense qu'en fait, ce serait bête de se priver de ça, sauf que le conserver en tant que joueur, je trouve ça aberrant d'avoir un mec qui a 300 000 par mois, mais qui va pas jouer un match de l'année parce qu'il a 36 ans et que il est juste là pour faire de la figuration.
C'est ça aussi.
Donc je pense en fait que son rôle devrait être une espèce de lien entre le banc et entre le staff et les joueurs au sein de l'équipe pro, et juste qu'il devrait se retirer.
Pablo, en fait, on est d'accord.
Ouais, mais
parce que
je t'explique, Max, sur ta fiche, il m'a marqué, on s'en cague de Payet. Voilà, c'est ce que tu lui aurais dit.
Après, en soi, après, on s'en cague de Payet, parce que c'est.
Ah, ça s'est tranché, ça, quand même.
Ah, bah là, tu vois, moi, j'étais déjà dans le.
Non, mais Pablo.
Vas-y, Pablo, développe alors.
Parce que pour moi, c'est pas avec Payet à ce niveau-là qu'on va step up l'année prochaine. Maintenant, Payet, faut tourner la page, en fait. C'est ça, quand t'es dans une logique de progression chaque année, là. Je crois que ça fait au moins 15 ans qu'on n'a pas fini deux fois d'affilée sur le podium. À chaque fois qu'on a fait une saison, on a fini podium. Derrière, on s'est chié dessus. On est allé en Coupe d'Europe. On a fait de la merde. Il y a eu une crise. Il a fallu changer d'entraîneur. À chaque fois, ça a été ça. C'est sur les 8 dernières années, là, ça a été ça.
On fait pas 3 podiums d'affilée. La dernière fois, c'était en Guéret de Deschamps, là.
Ouais, c'était Guéret de Deschamps. On fait le second, premier, second.
Albert Raymond, sinon?
Albert Raymond s'est coupé. Et du coup, en fait, quand tu veux step up, que tu veux te rapprocher plus ou moins du PSG, être de plus en plus présent sur les podiums, progresser en Coupe d'Europe, ben, tu progresses plus.
Bien sûr. Mais Pablo, moi ce que je te disais, c'était que le sens de mon analyse, c'était de dire que Marseille devait respecter son engagement vis-à-vis de Payet. Je te le redis, c'est simplement pour le signal envoyé ces derniers temps. Longoria a eu une gestion qui était un petit peu brutale avec certains joueurs. Je te le redis avec Bakambu et Bemba Dieng. Et je pense que si Longoria, Marseille coupe le contrat de Payet, ça sera pas un bon signe.
Après, est-ce que ouais, ils peuvent pas serrer la main les deux à la fin de la saison en disant,
ça serait l'idéal, hein. Évidemment,
mon copain, merci, voilà.
Ça serait l'idéal.
Ouais, mais Joe,
on fait
Joe,
une fête, après, on fait quelque chose.
Un repas, Payet sera content.
Joe, Payet, c'est pas Bemba Dieng et c'est pas Bakambu à l'OL.
Ah, merci quand même.
On espère.
C'est pas les mêmes statuts. Bakambu et Bemba Dieng, c'est des mecs, on savait que c'était un mec, ça allait pas être Drogba, le gars. Et Bakambu, pareil. C'est pas des mecs qui allaient marquer l'histoire de l'OM comme ont pu marquer d'autres joueurs. Payet, il est rentré, je crois, en 2017. Donc, t'imagines, ça fait 6 ans qu'il est revenu. Alors, il a connu des très hauts, comme l'année 2018, quand on fait finale de Ligue Europa, il est très bon. Après, il est moins bon la dernière année Garcia. Il revient bien avec Villas-Boas. En fait, ça a toujours été une espèce de haut-bas, là, grand 8 avec Payet. Un coup, il est bon, un coup, il est moins bon. Donc, on sait jamais vraiment sur quel pied on
est. C'est en 2011 qu'il arrive, c'est ça, les gars?
Il arrive en 2013, Payet. Il débarque de Lille. Et en fait, déjà en 2013, il met 2 ans à éclater. Parce qu'il est.
Attends, 2009-2010, c'est l'arrivée de Gignac. 2012-2011, c'est l'arrivée de Gignac.
Tira sur Wikipédia.
Ok, on fait comme ça.
Merci Pablo d'avoir été avec nous.
Salut Pablo.
Ciao, à bientôt. Tu reviens quand tu veux, Pablo.
Ciao,
Pablo. Dans un instant, quelques petites infos également autour de l'Olympique de Marseille. Et puis je vous rappelle, 21h30, Michel Derzakarian, l'entraîneur de Montpellier, qui cartonne, qui affrontera Marseille d'ailleurs, vendredi en ouverture de la prochaine journée de Ligue 1, sera notre invité dans Génération After avec Simon Dutin, Jonathan Macardy et Walid Acharchour. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Jonathan Macardy, Walid Acharchour, avec Simon Dutin également. On est en direct sur la chaîne Twitch. On est également sur TikTok ce soir, sachez-le. Ensemble jusqu'à minuit. Quelques petites infos, OM. Je vous rappelle que dans 10 minutes à peu près, Michel Derzakarian, l'entraîneur de Montpellier, sera notre invité dans Génération After. Des petites infos autour de l'OM qui va affronter Montpellier justement. Ce sera vendredi et ce sera vif sur RMC. Alors je sais pas si vous avez vu ça, mais l'OM et Bielsa auraient trouvé un accord de résiliation à l'amiable. La Provence qui annonce que l'entraîneur argentin qui avait quitté Marseille, vous vous souvenez, hein, ça a été divorce difficile en août 2015, et le club aurait trouvé un terrain d'entente, hein, enfin. Oui. Ça traîne, hein, cette histoire quand même. Hein. Oui,
ça traînait, mais apparemment les échos qui sont ressortis des discussions, c'était que Bielsa avait été impressionné par la qualité intellectuelle et de Pablo Longoria. Donc voilà, c'est la petite anecdote marrante du truc. Ouais.
Bon, pas écoute. Et, info qui nous vient d'Italie. Selon Tuttosport, la Juve songe à Igor Tudor pour remplacer Allegri la saison prochaine au poste d'entraîneur. Alors c'est loin d'être fait. Hein. C'est expliqué par le quotidien italien. La Juve souhaite pas virer Allegri, parce qu'ils disposent notamment d'un gros salaire à Turin et sont plutôt contents de ce qu'il fait dans le contexte très difficile. Vous savez que la Juve a été pénalisée de 15 points au classement. Et les dirigeants donc s'opposent cependant pas à un départ si jamais Allegri venait à être débauché par un autre club. Et Tudor serait le favori pour remplacer Allegri en cas de départ.
Voilà. Mais moi, c'est pour ça que dans le débat, je voulais le dire, mais c'est quelque chose à prendre dans l'équation sur le débat Payet. Est-ce qu'on est sûr que Tudor sera sur le banc de l'OM la saison prochaine? On ne sait pas. Peut-être qu'il y aura du changement. Peut-être un autre entraîneur qui aura besoin d'un numéro 10. Et puis, je ne serais pas étonné s'il y avait une sorte de chassé-croisé Paris-Marseille-Turin entre Tudor et Allegri.
Oh, c'est après.
C'est-à-dire, attends, je ne l'ai pas là.
Tu as dit que la condition
Allegri
c'était
quoi, Paris, c'était Tudor, que c'était Turin, qu'Allegri
soit tu verras Allegri à Paris.
Débauché.
Et Galtier à Marseille, du coup?
Non, Galtier à Marseille, c'est terminé. Ça n'arrivera plus. Et tant mieux.
Celle-là, on va la garder.
Et tant mieux.
Celle-là, on la garde.
Mais
je pense que Galtier n'ira pas à Marseille.
Mais j'espère pas. Maintenant, après ce qu'il a fait, j'en crevais d'envie auparavant. Je rêvais de le voir sur le banc de l'OM et gagner des titres avec l'OM. Maintenant, c'est terminé. Je sais même plus comment il s'appelle. Je le vois dans la rue, je le
reconnais
même
plus.
Christophe Galtier. C'est comme l'autre là qui est parti à Birmingham. Là, je sais plus comment il s'appelle.
Bouba Camara. Respect Bouba Camara.
Non, je sais pas qui c'est moi.
Ah d'accord, ok.
Tiens, vous en pensez quoi là de cette possibilité Tudor à la Juve? Non, mais cela dit, la question soulevée par Jonathan, elle est pertinente. Il peut partir, hein, Tudor, à la fin de la saison, débauché par la Juve ou par un autre club, hein, d'ailleurs. Hein. Simon, t'as l'air dubitatif par rapport à ça, toi.
Jonathan vient de nous vanter l'intelligence de Pablo Longoria, que je ne remets absolument pas en cause. Je partage son avis. Va falloir être plus qu'intelligent, va falloir être ingénieux, un créatif pour aller vendre aux supporters marseillais que tu dors.
Mais si c'est débauché par
tu t'es démerdé pour.
Après, il a un contrat.
T'as
hein,
fait comme tu. Attends, ouais, il y a un contrat. Messieurs dames, Tudor, il va arriver.
Marseille, Simon.
Et alors, et à la Juve, Tudor qui a l'air d'être un mec de principe avec plus qu'une grande gueule, un gros caractère et tout, il va aller voir la Juve, il va aller leur dire mais les mecs, moi j'étais en Italie là, pour qu'est-ce qui vous
non,
a, pourquoi
Simon,
vous intéressez
le
pas
le problème, c'est le passif.
Ça va, c'est invendable aux supporters marseillais, donc je pense que Longoria fera pas cette.
Tu sais comment c'est
tout
est
à vendre,
Simon.
Oui, non mais j'ai.
Tu sais, vraiment, hein, tout est à vendre à Marseille.
Franchement, personne n'imaginait Tudor, à part peut-être toi, le geek qui regarde Hellas Vérone, Salernitana.
Et encore, c'est
quand
plus un mytho qu'un
geek. Et encore, voilà, on n'est pas sûr.
Non, pour la Serie A, je regarde.
Personne s'imaginait Tudor, en plus, qui n'a pas si bien démarré que ça à Marseille. Maintenant, tu vas aller expliquer aux supporters marseillais que le mec qui a battu le record de points sur une saison à Marseille pour sa première saison, qui a réussi, encore une fois, sans paillettes, sans le talisman, machin, de ces 10 dernières années, tu vas leur dire qu'il part à la Juve. Non, mais.
Wally, tu crois toi ou pas, ça?
Tout est possible. Déjà, la première bien des sûr. Choses, c'est qu'on ne sait pas comment va se terminer la saison de l'Olympique de Marseille. La deuxième des choses, c'est que,
oui, c'est, vrai,
c'est que Igor Tudor fait souvent une saison dans un club, bon, pas pour les bonnes raisons d'habitude, mais là, ça peut être le cas dans une bonne raison. C'est-à-dire rappelez-vous de Conceição à Nantes. Conceição à Nantes, il fait une très bonne saison à Nantes.
Il fait 6 mois.
Il fait 6 mois. Tout le monde se dit qu'il va s'installer dans la durée. Porto arrive. Merci au revoir. Les coachs aussi, ils peuvent être aussi cynique que les clubs, hein. Igor Tudor a une histoire avec la Juventus. Si véritablement la Juventus est intéressée par Tudor, je serais pas aussi sûr que Simon sur le fait qu'il décline l'invitation.
Hein. Tu dis pas que lui décline. Je te dis que t'es Longoria, tu dis tous les joueurs sont avant. L'entraîneur, tu touches pas, il bouge pas.
On revient en mars de l'année dernière, on te dit Sampaoli sera plus au LM l'année prochaine.
Non, je sens pas au lit.
Mais Simon, tu peux pas le contraindre de rester. Si lui demain la Juve avec toute l'histoire qu'il connaît, viens le voir.
Il a commencé à c'est pareil, c'est des mecs qui te vendent un peu leur philosophie sur la parole donnée, sur je te regarde dans les yeux, tiens, je t'ai pris entre quatre yeux, je t'explique ça dans le vestiaire, j'ai été clair avec un tel, j'ai été honnête avec un tel. Écoutez, c'est pas l'image
du Kinder Pingui, ça.
C'est pas l'image que, Kinder Pingui, c'est pas les meilleurs, les Kinder Pingui.
Mais là-dessus, t'as raison.
Non, mais écoutez, c'est pas l'image du bonhomme que j'ai, et j'ai tendance à, j'ai envie de croire peut-être que je suis un bisounours. J'ai tendance à croire que le mec, après ce qu'il a commencé à construire à Marseille, il dira à la Juve mollo les gars, vous me laissez faire 1 ou 2 ans et puis on discute derrière. Mais peut-être que je me trompe.
Walid soulève un débat qui est
mollo
assez important.
Sur le marché, hein.
Non, mais qui soulève un débat qui est important. Mais c'est quoi le meilleur Kinder du coup?
Ah, pour moi, c'est
tout court.
Pour moi, c'est le.
Ah non, mais arrête, toi, avec ta bonne bouffe là. Un peu de caca dans le cerveau.
Moi, les Kinder, c'est tout dépend de l'ambiance. C'est-à-dire que le matin, ça peut être un country.
Country, c'est hard quand même.
Très sous-estimé le Kinder Country.
Moi, je trouve ça vraiment.
Ah, simple, on a des glycémiques dès le matin, c'est dégueulasse. Bravo.
Après un match de foot, par exemple, c'est le Bueno.
Ah, Bueno, c'est un. Pour moi, Bueno, c'est Ligue des Champions du Kinder.
Voilà, Kinder Bueno. Celui où on trempe le lait là. C'est le
Kinder. Le classique, Kinder, là. Voilà. Le mode Dodan. J'en ai mangé avant de venir.
Celui-là, c'est 16h. Voilà, et puis après,
avec
voilà.
Un petit bout de pain.
Et Kinder Pingui, c'est frais.
Kinder Chocolat, imbattable. Ouais, voilà. Ce n'est pas la pub, mais enfin, Michel, j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison.
Oh, le jingle, alors, finalement, vous me désolez.
Tenez les enfants, achetez ce que vous voulez. Mais voyons Michel, j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison.
Ceux qui écoutent à la radio, vous avez pas la tête de Jonathan McCarty qui est en plein show là. Comme s'il mangeait aucune, mais vraiment, vraiment aucune.
Je pense qu'on a tout. Mon gars, mange des graines. Allez, on y va. Michel Derzakarian sera notre invité dans une poignée de minutes dans Génération After, l'entraîneur de Montpellier qui va affronter l'OM. Tiens, ouais. On lui demandera aussi. Tiens, tu lui demanderas, Jonathan, quel est son Kinder préféré à Michel Derzakarian?
Non, ça ira, merci.
Allez, à tout de suite dans Génération After avec Simon Dutin, Jonathan McCarty et Walid Acharchour.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
En compagnie de Walid Acharchour, avec Jonathan McCarty, avec Simon Dutin. On est toujours en direct également sur la chaîne Twitch RMC Sport et sur TikTok. Alors le débat Kinder fait un carton sur la chaîne Twitch RMC Sport. Voilà.
On a oublié de parler de celui qui a une grosse hype en ce moment dans tous les supermarchés, c'est le Maxi King.
Que je n'ai pas testé.
Ouais, qui se vend par 3. pour les connaisseurs. Non mais vraiment pour les connaisseurs, pour les fins gourmets.
Mais du coup avec la pub qu'on vient de faire à Ferrero, s'ils peuvent nous envoyer quelques cartons.
J'espère pour vous que ce sera pas ceux avec les microbes dedans là.
On n'a rien vu de tout ça.
Depuis, contre, ça vous avez mangé, ça vous a dans le cerveau.
Depuis qu'il a repris en main Montpellier, il est injouable. 5 victoires, 1 nul. Il va affronter l'OM pour la reprise de la Ligue 1 ce week-end. Il a célébré il y a peu ses 60 ans, mais il est frais comme jamais. Michel Darzacarian est avec nous dans Génération After. Bonsoir Michel, merci d'être avec nous.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Michel.
Bonsoir Michel.
Bon déjà, comment ça va Michel ?
Bonsoir Michel.
Bah très très bien.
Ça se passe bien là ?
Ouais. Il fait beau et on a du soleil, c'est agréable.
Alors depuis votre retour à la Mosson, je l'ai dit, Montpellier c'est 5 victoires et 1 nul. Personne ne fait mieux sur cette période. C'est quoi le secret, Michel, là, de Montpellier là, depuis votre retour ?
Bah, j'espère que ça va durer surtout, qu'on va continuer à montrer le visage que l'équipe montre sur le terrain.
Bah, Michel, bonsoir et déjà merci d'être avec nous dans Génération After. Mais il y a quand même une chose qui est frappante, c'est que bah, vous êtes là sur les 6 dernières journées, vous êtes la deuxième attaque et la meilleure défense. Vous avez réussi à remettre de l'ordre et à rééquilibrer cette équipe. Comment vous avez retrouvé ce groupe-là et dans quel état il était psychologiquement, techniquement ?
Non, je pense que c'est un groupe où il y a des joueurs de qualité. La moitié des joueurs, je connaissais. Sont dans l'équipe que j'avais côtoyé déjà il y a un an et demi. Voilà, je pensais que ça allait pas être facile non plus. Hein. Il n'y a rien de facile dans le football. Hein. Même si on a joué des concurrents directs, ces matchs-là, il faut les gagner. Mais l'implication des joueurs a fait que ce qu'on a mis en place avec mon staff. Ils ont adhéré au travail, ils ont bien bossé, et puis ça s'est répercuté sur le terrain.
Vous savez que c'est le meilleur début d'un coach au MHSC de l'histoire du club, ce que vous êtes en train de faire ?
Oui, on me l'a rapporté, mais bon, ça c'est déjà les années précédentes que j'ai passées à Montpellier, on avait fait sauter pas mal de...
Exactement.
De résultats contre des grosses équipes.
Michel Darzacarian avec nous en direct dans Génération After. Simon, tu as une question pour Michel.
Oui, Michel, bonsoir. Ben, vous l'avez souligné vous-même, vous connaissiez une partie de l'effectif. Vous arrivez là en cours de saison. Ces joueurs, ils vous connaissent, ils vous connaissaient. En quoi le discours de l'entraîneur qui arrive en cours de saison pour rétablir une situation, il diffère de celui que ces joueurs ont connu à l'époque où vous étiez l'entraîneur titulaire ?
Ah, je pense qu'ils avaient conscience aussi qu'ils avaient pas été bons sur le terrain aussi, hein, parce qu'ils ont été inconstants aussi.
Vous leur dites lorsque vous arrivez, vous n'avez pas été bons, vous pouvez faire mieux.
Pardon.
C'est ça, en gros, le message, c'est messieurs, les confronter à la réalité, leur dire pour l'instant vous n'êtes pas bons, quoi.
Non, ce que j'aurais dit, c'est que il faut mettre les services de leur qualité au service de l'équipe. C'est la première des choses, c'était ça. Et puis quand on est à deux points du premier relégable, voilà, il faut mettre le bleu de chauffe et être au combat déjà dans le premier temps. Et on a répondu présent dans ce domaine-là. Et je sais que si tout le monde travaille bien collectivement pour bien récupérer les ballons, on a quand même du potentiel dans l'équipe, des joueurs qui sont capables de donner des bons ballons, on a des joueurs qui sont capables de marquer des buts. Je savais qu'on aurait pu inverser les choses à travers le collectif.
Est-ce que vous avez hésité, Michel, avant de revenir à Montpellier ? Parce que vous connaissiez finalement déjà ça. Est-ce que, je ne sais pas, vous l'avez vécu comme finalement, je ne vais pas dire un retour en arrière, mais un peu quand même, vous connaissiez déjà ça. Je me souviens, vous étiez avec nous quand vous aviez signé à Brest à l'époque. Vous étiez avec nous sur RMC, vous aviez dit, pour être honnête, je suis allé à Brest parce que j'ai reçu que ça comme proposition. Vous sortiez de 4 belles années à Montpellier. Comment vous vivez ce retour à la paillade ?
C'est la vérité. Le club avait envie d'échanger aussi à l'époque et moi j'avais envie aussi de trouver de voir autre chose. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu d'offre autre offre que Brest et comme j'avais envie de de travailler, ben je suis parti à Brest. Mais, je ne suis pas parti à contre-cœur. Hein. On a fait une première saison. On avait fait pareil, une série de six victoires d'affilée qui nous a été propulsées en dehors de, des quatre dernières places. Et aujourd'hui, j'ai réussi à nouveau mon retour à Montpellier, même si je ne m'attendais pas du tout à ce que Montpellier me rappelle.
Ouais. Michel, est-ce que vous diriez que l'arrivée de Kouyaté a quand même changé beaucoup, beaucoup de choses pour le MHSC ?
Pas que Kouyaté, je pense que Kouyaté, Silla,
aussi.
Silla à gauche au niveau de la défense, Benjamin Lecomte, et qui est arrivé aussi avant que je revienne. Voilà, c'est des joueurs qui ont amené de la stabilité aussi derrière. Et qui ont donné de la confiance aux joueurs qui captent d'eux.
Alors, l'un des joueurs qui cartonne à Montpellier cette saison, Michel Darzakarian, c'est Eli Wahi, 20 ans seulement, 12 buts cette saison, il en avait claqué 10 la saison dernière. Vous avez fait un entretien récemment à France Bleu Héros dans lequel vous avez déclaré Wahi, c'est minimum 25-30 millions d'euros. Jusqu'où il peut aller finalement, Wahi ? C'est encore un jeune joueur, mais est-ce que vous lui donnez même des conseils ? Il y a certains jeunes parfois qui se brûlent un peu les ailes, qui ne font pas les bons choix de carrière.
Il a démarré avec moi il y a deux ans et demi déjà. C'est son premier match, il était rentré, il avait marqué à Lyon. C'est un garçon qui est pétri de talent, qui a tout ce qu'il faut pour aller haut niveau. Après, à lui de continuer à travailler très très fort surtout. C'est ce que je répète tout le temps. Voilà, c'est, on a beau avoir du talent, si on bosse pas fort, faut pas répéter les sprints et faut avoir du coffre. Il faut qu'il améliore son coffre.
Quand vous parlez du Kawhi, j'ai suivi avec attention vos déclarations sur le sujet. J'ai l'impression que vous êtes un peu fataliste quant au fait de le perdre en fin de saison.
Non, on sait que à court terme il va être amené à bouger. On sait qu'on pourra pas le garder, mais c'est comme ça. C'est beaucoup de clubs aujourd'hui fonctionnent comme ça. On a des très bons joueurs. Ils s'en vont souvent. C'est pour ça que notre championnat il est très très bon et il est dénigré par beaucoup de monde. Mais je pense qu'on a un championnat qui est bon et on a des bons joueurs et qui sont demandés dans les meilleurs.
Michel, j'ai l'impression aussi que vous avez une relation quand même particulière avec TJ Savanier. J'ai l'impression qu'il a encore plus retrouvé des couleurs depuis que vous êtes arrivé. Parlez-nous un peu de votre relation avec TJ.
TJ, c'est un garçon charmant qui est pétri de qualité. Voilà, il pue le football et voilà. Quand tu coaches, t'as pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Il sait ce qu'il a à faire sur le terrain. Il le fait très très bien.
Vous savez, Michel, que Jonathan.
Content de l'avoir avec soi. Ouais.
Jonathan, lui, milite pour qu'il aille en équipe de France.
Ouais, mais en équipe de France, il y a. C'est dommage qu'il n'ait pas 5 ans, 6 ans de moins. Voilà.
Alors, juste également, un mot sur Wahbi Khazri aussi, parce que j'ai vu que dans France Bleu Héros, dans cette fameuse interview, vous avez déclaré s'il avait 3-4 kilos en moins, il serait meilleur. C'est un gentil garçon, un très bon joueur. Il a une bonne technique, une bonne vision de jeu. Dans le jeu combiné, il est très très bon. Mais je pense qu'il pourrait être meilleur s'il faisait ces efforts-là. Est-ce que vous en avez déjà parlé avec lui et qu'est-ce qu'il vous répond à ça, justement?
Bien sûr que j'en ai parlé, oui, bien sûr. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait pas que lui, il y avait d'autres joueurs aussi qui avaient du poids en trop. Et voilà. Je pense que quand tu veux jouer au niveau et rester, en plus quand tu dépasses 30 ans, il faut rester bien affûté pour être bon sur le terrain. Et pour déjà pas se blesser, parce que quand tu as des fois 3 kilos, 4 kilos en trop, parce que les joueurs ils pensent toujours qu'ils sont un bon poids.
Bien sûr. Wahbi, il a des problèmes.
Après, c'est comme je t'ai dit, comme tu l'as bien dit, c'est un joueur de grande qualité. Il a, dans tous les clubs où il est passé, il a été très très bon. Il est capable de marquer des buts, il est capable de donner des bons ballons. Il est comme TJ, il sent bien le football. C'est un très bon joueur.
Tiens, on accueille Yannick Michel, qui a une question pour l'entraîneur de Montpellier. Salut Yannick.
Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Yannick. Alors, vas-y, Yannick, c'est ton moment. Michel Darzacarian, ton entraîneur, est face à toi.
Ben déjà, bon, déjà, je voudrais le remercier pour tout ce qu'il a fait ces dernières journées, parce que, mine de rien, on était quand même vraiment pas bien. Je voyais pas trop.
À deux points de la zone rouge, ouais, quand il arrive. Hein.
Ouais, puis je voyais pas d'issue, tout simplement. Je voyais pas quel ressort allait pouvoir nous sortir de là. Ben, il faut savoir, je pense que Michel, il est arrivé et il a trouvé les ressources pour ça. Et du coup, ben, on le remercie parce qu'on était mal barré. Et moi, j'avais une petite question, parce que ce qui a été un peu abordé tout à l'heure par rapport à quand Nico, toi, tu lui as demandé si quelque part, et il n'avait pas l'impression que c'était un retour en arrière de revenir à Montpellier. Quand il est parti, c'est vrai que ça venait, j'ai l'impression, un peu plus du président qui voulait démarrer un nouveau cycle. Je crois que, d'après ce que j'ai bien compris, Michel aurait bien aimé peut-être rester... Enfin, lui, il se serait bien vu pour rester au club. Et du coup, alors même si c'était légitime de peut-être vouloir démarrer un autre cycle, est-ce que quelque part, avec ce retour, il n'y a pas ce sentiment, pas forcément de revanche, mais de se dire un peu, ben, on a peut-être tous un peu perdu notre temps et... Si j'étais resté, ben peut-être que du coup, ça aurait été dans la continuité de tout ce que j'avais fait, de tout ce qui avait été fait avant, en fait. Un petit, en fait, c'est un peu ça qui fait que maintenant, quand il revient, on se dit, ben moi, j'avoue que quand il est parti, je me suis dit que c'était la fin d'un cycle, voilà, et qu'il fallait quelque chose de nouveau. Et maintenant, ben j'ai un peu un plaisir coupable de le voir revenir en me disant, ben ah ouais, mais j'ai pas été un gentil garçon.
Alors, tu sais quoi, Yannick, je vais même prolonger ta question à Michel Darzacarian. Est-ce que, à 60 ans, quand vous regardez votre parcours, vous avez des regrets? Est-ce que vous vous dites pas que vous auriez pu taper plus haut à un moment?
Non, des regrets, je veux pas des regrets. On a la carrière qu'on mérite. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est le football, hein. C'est le destin. Et moi, je suis content de la carrière que j'ai eu en tant que joueur et en tant que j'en aurais rêvé et je l'ai réalisé.
Mais qu'est-ce qui bonsoir Michel, mais qu'est-ce qui vous...
Ah, tu t'es réveillé toi?
Oui, bah j'écoute, j'observe et quand j'ai quelque chose à dire, j'essaie de poser la question à Michel. Qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce qui vous a manqué pour avoir une équipe entre guillemets du top 5 en Ligue 1, pour avoir un peu plus d'ambition? Est-ce que vous avez...
Il faut que les directions aient envie de travailler avec toi, tout simplement. Moi on m'a beaucoup dénigré, hein, parce que on me disait que j'étais un entraîneur défensif. Moi,
ça vous énerve, hein, Michel.
C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce que j'ai pas ce discours-là avec mes joueurs. Moi, j'ai envie de marquer. Comme les équipes marquent des buts, après, tout dépend de la qualité d'effectif que tu as et des joueurs, la qualité des joueurs que tu as. Parce que quand tu veux jouer haut, presser haut, il te faut des joueurs qui vont vite derrière, qui aussi, sinon tu vas au suicide aussi. Si tu as une capacité d'avoir des joueurs qui ont un physique énorme pour presser haut, pour garder le ballon, pour tenir le ballon haut, il faut de la technique, il faut, voilà, c'est... Et quand tu n'as pas le ballon, il faut défendre.
Et Michel,
moi, c'est ce qu'on m'a appris. Hein. J'ai eu Ciodo. Ciodo, c'était un super entraîneur aussi. Mais quand tu n'avais pas le ballon, il fallait défendre pour l'utiliser derrière. Hein.
Juste pour compléter, Michel, la question de Walid et Nicolas, il n'y a pas eu un côté, vous l'avez jamais senti, genre, excusez-moi de vulgariser, mais Darzacarian, c'est un emmerdeur, quoi. Darzacarian, je ne sais pas, il a un gros caractère. Il n'y a pas des présidents qui ont eu peur de ça, vous pensez?
Non, je pense pas. Moi, j'aime bien parler avec mes joueurs. J'adore mes joueurs. Et après, il faut de la rigueur aussi. Il faut de la discipline. Aujourd'hui, le football, c'est un jeu de position. Il faut chacun dans son registre. Il faut être performant.
Michel, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Michel. On vous dit merde pour vendredi, ce match face à l'OM. Hein,
pas
du coup.
Moi.
Bah si, ouais, si.
Non, aussi. Pas moi, mais ouais, pour les matchs d'après.
Bon, c'est le bon moment de les jouer. Ils sont nuls à domicile, Michel, Marseille cette année. Ils sont nuls à domicile cette année, Marseille, Michel.
Ouais, ils sont pas nuls, ils sont.
Michel, doucement ce week-end et vous reprenez votre marche en avant.
Michel, vu la forme du moment, c'est Montpellier le favori, on est d'accord.
Écoutez, on en parlera après le match, hein. Mais on va y aller pour bien sûr pour le gagner. On va essayer de les bousculer aussi, parce qu'on va pas les regarder jouer.
Merci beaucoup Michel d'avoir été avec
Salut
nous.
Salut Michel.
Ok.
Bonne soirée, à bientôt.
Merci Michel.
Et merci à Yannick, un supporter de Montpellier qui était en direct avec nous.
J'ai vu un site, tu sais, un site de supporters Montpellier, je crois que c'est les Payadins ou quelque chose comme ça, qui appelle Darzac Arménien quand même le génie arménien.
Oui, c'est pas mal. Hein.
C'est bien, c'est canon comme surnom.
Ça pète.
Et le génie français, le génie arménien.
Dans quelques instants, pas mal d'infos du jour et quelques déclarations de Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, qui a fait une interview en Espagne à El País, où il parle du rôle des mamans pendant l'épopée du Maroc à la Coupe du Monde. On va vous lire ça, on va vous traduire ça dans quelques instants avec Simon Dutin, Jonathan Macardy et Walid Acherchera tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Simon Dutin, Jonathan Macardy, Walid Acherchour, on est là jusqu'à minuit.
Il y a Walid avec son Saboden qui rentre en boitant avec sa béquille dans le studio. Tout feu, tout flamme, le ventre en avant, c'est somptueux, j'aurais dû le filmer.
Mais je ne vois pas ce que t'as contre les ventres
en avant. Mais j'ai rien, tu sais quoi.
Un élan. Avec ceux qui aiment la nourriture.
T'es sympathie, t'es rentré, t'es un bon vivant, t'avais l'image du bon vivant.
Gros corps malade. Gros corps malade.
Non,
c'est vrai.
Quelques infos du jour avant l'after 22h. Interview de Walid Regragui au quotidien El País.
Incroyable interview.
Ouais, il est toujours fort de manière.
Ah, sincèrement.
Et d'ailleurs, il a fait une conf de presse incroyable.
Le racisme là
Non, mais globalement, il a parlé un peu de tout.
Mais ce mec, il est au top.
Ouais. Moi, j'aime bien, ouais. Le sélectionneur du Maroc, qui vient de battre d'ailleurs le Brésil en amical, s'est exprimé dans la presse espagnole. Il est revenu sur le parcours du Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Et il a relevé le rôle des mères des joueurs. Je cite Walid Regragui. Normalement, les joueurs passent beaucoup de temps à être distraits par les filles, les réseaux sociaux, les bijoux, les photos, Rolex, Louis Vuitton, les lunettes. Au Mondial 2018, il y a eu beaucoup de problèmes parce que les joueurs ont amené leurs agents, leurs petites amies et leurs amis au camp d'entraînement. J'ai changé les règles. Seuls les épouses et les enfants ou la famille proche, frères, sœurs, pères et mères, étaient autorisés à y séjourner. Si je leur avais laissé le choix, les mères n'auraient pas été là. Et il poursuit. En concernant les mamans, elles font régner l'ordre. Pour moi, elles étaient très importantes car le cercle familial tourne autour d'elles. Pour les musulmans, le rassemblement des familles le vendredi autour du couscous de la mère est quelque chose de très important. Seules les mères sont capables de réunir leurs enfants de cette manière. C'est incroyable quand même ce qu'il dit.
C'est dingue parce que surtout avec l'anecdote en 2018 où il disait que voilà, c'était un peu le club med dans les entrées et dans les sorties et que les joueurs étaient déconcentrés par rapport à ça et que il explique aussi dans l'interview que il vérifiait aussi avec les cartes d'identité pour voir s'il y avait un lien familial avec les joueurs. Ah non mais qu'il y avait vraiment
il était en mode ambassade quoi.
Ah non mais c'était très très strict et c'est ce qui a permis aussi à ces joueurs là d'être concentrés pendant toute la compétition.
La moralité de l'histoire c'est qu'Achraf Hakimi devrait rester avec sa maman du coup hein. Il devrait emménager, rabattre à la maman et puis habiter avec.
Ce qui est fabuleux, c'est qu'ils disent si je leur avais laissé le choix, elles n'auraient pas été là.
Oui.
Et moi, j'ai pas joué au foot longtemps, mais en débutant, en poussin, tu sais, c'est un peu système D après les entraînements, après les tournois. Ouais. Quand tu vois le rôle qu'ont les mamans dans le foot, qui est pas encore tout à fait encadré, avec au milieu des bénévoles, des mamans qui donnent de leur temps, qui viennent pour le goûter, qui viennent pour ramener les copains de leurs enfants. Je trouve que c'est formidable. Et de toute façon, Redraghi, c'est rare que je sois contre ces déclarations. Je trouve que c'est vraiment un mec formidable.
Et surtout,
formidable.
En plus, avec la bienveillance que les mamans peuvent apporter aujourd'hui dans le monde du foot, on a vu les scènes après le 8e de finale contre l'Espagne avec la maman de Boufal et Boufal qui dansent au milieu du terrain.
Magnifique.
Déjà à l'époque, l'image était magnifique, mais avec le discours de Regragui, ça rajoute encore plus à ce côté symbolique où les mamans avaient une vraie importance dans l'équilibre entre guillemets mental au jour le jour des Marocains.
D'ailleurs, il y a une autre thématique qui soulève dans cette interview, c'est celle de la binationalité, puisque toujours quand il parle du rôle des parents et des mamans, après tout, pourquoi ces hommes ont-ils décidé de jouer pour le Maroc? À cause de leurs parents, dit-il, pour leurs grands-parents. Parce qu'à la maison, ils ont acquis un sentiment d'appartenance à un pays qu'ils n'auraient pas connu autrement. C'est vrai que souvent, on a tendance à oublier cet aspect-là également. Mais ils le font pour eux aussi, choix-là.
Bien évidemment.
Voilà.
Bien sûr.
Voilà, très belle interview. Je la recommande. D'ailleurs, c'est sur El País. Vous allez sur le site drmcsport.fr. Il y a les plus belles déclats qui ont été traduites.
Hein. Ouais.
Tiens, petite info transfert, petite rumeur plutôt. Selon les Evening Standard.
Ah non, pas une info, s'il te plaît.
Rumeur ou info. Responsable, ouais, mais pas coupable. Christophe Galtier est dans la liste des potentiels futurs managers de Tottenham. Alors, il y a plusieurs noms.
Il y a 15 noms.
Ouais, il y en a beaucoup.
Ouais.
Voilà. Donc, tu crois pas un instant?
Bah, j'ai du mal. Après, moi, je vais prendre des pincettes, hein, parce que on va ressortir la vidéo dans 3 semaines, Galtier sera avec le maillot de Tottenham, mais j'ai du mal à y croire. Hein.
Ça aurait été pour moi l'étape logique après le LOSC. Ouais. Là maintenant, vous savez, l'estime que j'ai pour Christophe, que j'avais pour Christophe Galtier, j'ai l'impression qu'on a quand même vu 2-3 choses. Non, mais juste en termes de cas de gestion managériale, on a vu quand même des choses un petit peu curieuses. Alors certes, c'est Paris avec tout le contexte imbuvable, invivable, immanageable, si j'ose dire, qui est le sien. Mais j'ai l'impression qu'il a un peu écorné sa côte. Quand même,
mais entre Nagelsmann qui est sur le marché, un Pochettino qui pourrait revenir à la maison,
Luis Enrique,
sincèrement, voir Galtier à Tottenham, je serais sur les fesses. Excusez-moi de l'expression.
Tottenham, toi, Simon.
Mais bon. Je sais pas pourquoi, moi, c'est mon club en Angleterre.
Ah ouais. Ça vient d'où?
Je sais pas. Non, mais même avant, ouais, c'est une finale de la Cup.
Ça vient de Huddleston, non?
Non, mais Waddle, qui était mon idole, avait joué Waddle, Gascoigne, Lineker, des petits noms.
Yo Mooney à l'époque.
Ouais.
Tu te souviens de ça ou pas?
Non.
Marc Pony, l'équipementier britannique.
Ah, j'avais pas ça.
Ah, tu l'as pas? West Ham aussi jouait en Pony, etc. C'était pas très beau d'ailleurs ce qu'il faisait, mais. Moi je me souviens à l'époque Ginola, Klinsmann.
Klinsmann, fabuleux.
Fin 90?
Ouais, bon, même mi-début 90 même.
On est vieux, nous, gros. Ah ouais, d'accord. Moi j'ai commencé le foot en 98, moi.
Ah ouais, mais non. Mais nous, non. Nous, on a bouffé le point noir avant. Petite info Ligue 1 également, ça sent la fin entre Lorient et Le Fay. Alors, joueur de 23 ans qui a révélé au Télégramme.
Ça sent la fin, il a quand même dit que c'était la fin.
Attends, oui, mais le problème, c'est qu'il reste un an de contrat. C'est ça qui est dingue. Il annonce qu'il va quitter, enfin, qu'il a envie de quitter son club formateur à Vicky, il est sous contrat jusqu'en 2024. J'ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu'à décembre, dit-il. Elle n'est jamais venue. Maintenant, je n'attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J'espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l'argent au FC Lorient. C'est le moment de partir pour moi. A-t-il rajouté? Il met quand même la pression.
Ferry va pas louper une occasion de se faire un billet, surtout qu'il y a le risque qu'il parte gratuit.
Même s'il disait je veux pas quitter l'Orient,
mais là ça fait baisser le prix, les mecs. Voilà, moi je le vois totalement dans un club comme Lyon.
Moi j'irai pas à Lyon si je suis Enzo Lefebvre.
Comme un club comme Monaco. Oui, moi, dans un club qui soit capable de jouer les places européennes.
Lens ou Lille.
Je sais pas, ils ont tenté des coups avec les Lefebvre, ça a été dur.
Lens ou Lille. Le problème de Lens, c'est qu'il y a Thomasson, déjà, Poulgini.
Lille
dans le projet Fonseca, alors qu'ils vont perdre.
Est-ce qu'il va rester, lui?
Qui, Fonseca? On espère, enfin, je le souhaite, moi, mais. Mais aller à Lyon, quand on voit par exemple la trajectoire d'un Romain Fèvre,
il peut en parler avec Fèvre, justement.
Après, moi, je vous avoue que si on me dit qu'il va à Marseille, je prends tout de suite. Pour moi, si on me dit ça fait des années que si on me dit il va à Marseille, je prends tout de suite.
Après, c'est pas le secteur.
Je pense qu'il a en lui de passer. Le secteur est bouché, mais il a en lui de passer le cap. Je pense.
Messieurs, merci beaucoup.
Je rappelle qu'il y a Zinounaï qui a été encore incroyable contre le Brésil, qui est remplaçant avec le.
Je vous donne quelques résultats. 55 minutes de jeu à peu près dans la deuxième journée des éliminatoires pour l'Euro 2024. L'Écosse vient de marquer son deuxième but face à l'Espagne. 2-0 pour les Écossais. Doublé de McTominay, ça lui fait 4 buts en 2 matchs, me précise Jimmy Horn.
L'Espagne, c'est d'une tristesse.
0-0 entre le Kosovo et Andorre. 1-0 pour le Pays de Galles face à la Lettonie. La Roumanie mène 2-0 face à la Biélorussie. La Suisse vient de marquer son troisième but face à Israël. Et la Croatie mène 2-0 en Turquie.
Sur l'Espagne, il y aura Fred Hermel à 22h, mais il y en a qui vont comprendre le travail de Luis Enrique. Hein, parce qu'il y en a qui critiquaient Luis Enrique. Avec le matériel qu'il a, je peux vous dire que.
Merci.
C'est pas du si mauvais boulot que ça.
Merci Walid Achrachon. Merci Simon Dutin.
Merci Jonathan.
L'after qui se poursuit dans un instant avec notamment Nico Jamin. À tout de suite. On vous attend au 32-16.